Imaginez la vie sans la vue. Imaginez le monde sans couleur. Imaginez l'existence de cet homme aveugle à Jérusalem. Il est né sans avoir la vue. Il n'a jamais vu le visage de sa mère ni celui de son père. Il n'a jamais pu courir dans la rue avec ses frères et sœurs, ni jouer avec d'autres enfants. Il n'a jamais vu les étoiles dans le ciel, ni regardé les oiseaux en plein vol. Il n'a jamais vu les montagnes autour de Jérusalem, ni les arbres, ni les fleurs. À cause de sa cécité, il n'a jamais étudié, il n'a jamais pu trouver un boulot. Un homme dans cette condition ne se marierait jamais. Sa vie est un rideau noir. Alas, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de s'asseoir dans la rue et de mendier, en espérant recevoir une croûte de pain ou quelques centimes pour acheter sa nourriture. Pendant qu'il reste assis dans la rue, il ne voit pas les enfants qui se moquent de lui. Il ne voit pas non plus un groupe de 13 hommes qui s'approchent de lui. Il ne les voit pas, mais il entend clairement leur voix. Depuis sa naissance, il a toujours été l'objet de ridicule et un objet de curiosité. Donc, il n'est pas surpris quand il entend les mots Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Il ne voit pas les regards indélicats des disciples et il ne voit pas le regard affectueux de Jésus. J'imagine que quand les disciples posent leurs questions, l'aveugle s'attend à une citation de la loi ou à la réponse typique d'un rabbin au sujet du péché. Mais cette fois, il entend quelque chose qui va lui offrir l'espoir. Pour la première fois dans sa vie, il entend ces mots. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soit manifesté en lui. Alors nous savons ce qui se passe après. Jésus fait de la boue, la met sur les yeux de l'aveugle et il l'envoie au réservoir pour les rincer. L'aveugle descend avec précaution dans l'eau, il s'éclabousse le visage et soudain, tout en fronçant les yeux à cause de l'éclat de la lumière, il voit pour la première fois. Il voit son reflet dans l'eau. C'est un miracle. L'aveugle retrouve la vue. Et est-ce qu'il y a une leçon pour nous dans cette histoire? Qu'est-ce que nous apprenons au sujet de notre propre lutte contre la cécité spirituelle? J'ai trois choses à dire. Je ne sais pas si le plan est dans le bulletin, mais je vais mentionner trois choses. Un miracle donné, je vais commencer par ça. Alors, dans les versets 1 à 12 de Jean chapitre 9, nous lisons l'histoire d'un miracle. L'aveugle a fait l'expérience de la puissance divine de Dieu. D'un objet de mépris, de ridicule et de rejet, l'aveugle est devenu l'objet de la grâce et de l'amour de Dieu. La clé de ces premiers versets se trouve vraiment au verset 3. Le but de Jésus est de manifester les œuvres de Dieu dans la vie de cet homme. Par sa grâce, Dieu a choisi cet homme pour qu'il soit le bénéficiaire d'un don extraordinaire. Jésus est la lumière du monde et il donne cette lumière à l'aveugle. Mais ce miracle préliminaire sert à préparer l'aveugle pour un plus grand miracle. Bien que Jésus se préoccupe de la condition physique de l'aveugle, il souhaite révéler un besoin spirituel aussi. Le miracle est un signe qui pointe vers l'activité de Dieu dans le monde. En fait, une des activités associées au Messie dans l'Ancien Testament était le fait de rendre miraculeusement la vue aux aveugles. Ce signe messianique a été manifesté explicitement dans la vie de cet homme. Et ce signe a été révélé pour que l'aveugle et ceux autour de lui voient la réalité du salut du Seigneur. Jésus a restauré un corps physiquement infirme dans le but de démontrer sa capacité à restaurer une âme spirituellement infirme. Dans son évangile, l'apôtre Jean emploie le mot « signe » plusieurs fois pour décrire des actes miraculeux. Le sens de ce mot pointe toujours vers une réalité plus importante. La ville de Jérusalem, comme n'importe quelle autre ville, était pleine d'aveugles, des aveugles spirituels. À ceux qui étaient perdus dans la nuit de péché, Jésus leur a offert un signe qui devait les guider vers la lumière. Est-ce que vous avez déjà été perdu, vraiment perdu? J'imagine que tout le monde s'est déjà perdu en voiture. Ça, c'est très facile à faire. Vous avez pris à droite au lieu de prendre à gauche et pendant des longues minutes, vous ne savez pas où se trouvait le bon chemin. Vous étiez perdu. Ça se passe souvent chez nous. Émilie, à droite, je prends à gauche et voilà. Mais quand j'avais 5 ou 6 ans, je me suis séparé de ma maman dans un supermarché pendant plusieurs minutes. J'étais perdu. C'était la fin du monde pour moi. J'ai paniqué jusqu'à ce qu'un employé m'ait trouvé et me ramène à ma maman. C'est terrifiant pour un enfant. Mais imaginez que vous soyez perdu dans une région complètement sauvage, dans une forêt qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Il n'y a que des arbres et encore des arbres. Il existe des régions comme ça au Canada, aux États-Unis et même en Australie, j'imagine. Chez moi, au Minnesota, aux États-Unis, il y a une région qui s'appelle « the boundary waters » ou littéralement « les eaux de la frontière ». C'est une grande région sauvage où il n'y a que de la forêt parsemée de centaines de lacs sur plus de 100 kilomètres carrés. Tous les ans, chaque année, tous les ans, il y a au moins une personne qui va y faire un voyage en canoë et qui disparaît chaque année. Parfois, on retrouve la personne quelques jours plus tard en hypothermie, affamée et toute effrayée. Et quelquefois, on retrouve la personne plusieurs mois plus tard, morte. C'est triste, mais c'est vrai. Imaginez que vous soyez perdu dans une forêt semblable à celle que je vous ai décrite. Dans une telle situation, la meilleure chose qui puisse vous arriver, ce serait de tomber sur un chemin bien large et bien entretenu, avec un grand panneau qui porte une flèche qui pointe vers la bonne direction. Comme un panneau dans la forêt, les signes sont nécessaires dans notre vie. Le miracle de Jésus dans la vie de l'aveugle était un signe qui pointait vers quelque chose de beaucoup plus important, vers le problème de la cécité spirituelle. Et ce signe sert à sauver des vies. Et nous alors, quand le Seigneur nous donne un signe, est-ce que nous sommes prêts à le suivre? L'aveugle l'a suivi, et parce qu'il a obéi à Jésus, il a fait l'expérience d'un miracle plus grand encore dans sa vie. Le deuxième point, un miracle rejeté. Dès que l'aveugle a retrouvé la vue, les gens l'ont remarqué. Cet homme qui était né aveugle, tout d'un coup, il voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La curiosité des gens augmente et certains doutent du miracle. Mais tout de suite, l'homme qui était aveugle donne son témoignage et affirme que oui, il était bien aveugle. Quelques minutes auparavant, il était encore l'objet du ridicule. Mais maintenant, il parle pour lui-même et il dit « J'étais aveugle, maintenant je vois ». Comment expliquer ce miracle? La réaction des autorités juives, c'est le doute et la colère. « Impossible, disent-ils. C'est un canular. En plus, Jésus est un pécheur parce qu'il n'observe pas le sabbat. » Donc les pharisiens posent la question de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Et encore une fois, l'aveugle explique ce qui s'est passé. Il s'est passé un miracle. Et la colère des autorités juives augmente. Souvenez-vous que pour les pharisiens, ainsi que pour les autres autorités juives, Jésus est un faux prophète. Et maintenant, ils vont jusqu'à ignorer les signes. Regardez les versets 30 à 34. Ces versets exposent la réalité spirituelle vers laquelle pointe le miracle. La réponse de l'homme qui était aveugle révèle son bon sens. Pour lui, l'origine de Jésus est claire. Pour lui, les signes pointent vers la grâce de Dieu. Il répond aux pharisiens en disant que si Jésus n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Mais en réponse à ça, les pharisiens, en bon calviniste, l'accusent de dépravation totale et le jettent dehors. Mais il y a quelque chose de très ironique dans ce verset, le verset 34, et je vais relire le verset 34. C'est très important. Les pharisiens disent à l'aveugle, « Tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseigne. » Et ils le jetèrent dehors. Les pharisiens dévoilent leur propre ignorance et même leur propre cécité sans le faire exprès. Ils expliquent la cécité de l'aveugle par ses péchés, alors que quelques minutes plus tôt, ils avaient nié sa cécité et le miracle. Vous voyez le problème ici? Ils se tirent une balle dans le pied. L'homme était aveugle après tout. S'il était aveugle, alors ça veut dire que Jésus l'a vraiment guéri. Les pharisiens ont dévoilé leur propre hypocrisie et leur propre cécité spirituelle. Imaginez que vous soyez dans un grand champ en pleine nuit. Il n'y a aucune lumière, ni lune, ni étoile, ni lueur provenant des maisons. Il n'y a rien à voir. C'est complètement, complètement noir. Soudain, quelqu'un pointe un projecteur en plein dans vos yeux. Quelle est la réaction la plus naturelle? Est-ce que vous vous précipitez vers la lumière aveuglante? Ou bien est-ce que vous vous détournez de la lumière pour tâcher de l'éviter et pour vous en éloigner? Évidemment, vous n'allez pas vous diriger vers la lumière. Parce qu'elle vous dérange, elle vous accable. Un cœur noir qui se tapit dans les ténèbres déteste la lumière de la sainteté et de la gloire de Dieu. Comme Jean l'a déjà dit très tôt dans le premier chapitre de son évangile, la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. Ici, dans le 9e chapitre, nous voyons la vérité de cette affirmation. Les pharisiens rejettent Jésus et ses miracles. Les autorités juives préféraient le mendiant aveugle et misérable plutôt que l'homme guéri et joyeux. Ils ont imposé leurs propres normes sur la manière dont Dieu pouvait œuvrer dans le monde. Ils ont rejeté la lumière parce que cela ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient de Dieu et de ses œuvres dans le monde. Et nous alors, est-ce que nous mettons des limites extra-bibliques, ou c'est-à-dire qui ne sont pas dans la Bible, sur la façon dont Dieu peut agir? Est-ce que nous supprimons et ignorons les choses que nous n'aimons pas? Ou est-ce que nous ajoutons des choses qui nous plaisent? Ça, c'était l'attitude des pharisiens, qui ont vu Jésus et ce miracle comme étant une offense contre Dieu. Plus on est éloigné de Dieu et de sa parole, plus on est enclin de se tromper. Ce n'est pas très confortable de fixer les yeux sur la lumière. Mais au fur et à mesure que nos yeux s'ajustent à la lumière, ça devient de plus en plus facile. Nous ne devons pas rejeter ce que Dieu nous révèle, peu importe si cela nous plaît ou non. Maintenant, on voit quel est le vrai problème dans ce texte. C'est le problème de la cécité spirituelle. Nous avons vu un miracle donné par la grâce de Dieu. Nous avons vu comment ce miracle a été rejeté. Et maintenant, nous allons voir comment l'aveugle accepte le miracle de salut dans sa vie. Le don de salut est le plus grand miracle dans ce passage, dans ce texte. L'aveugle a déjà connu les horreurs de la cécité physique. C'est peut-être la raison pour laquelle il était plus capable de comprendre les horreurs de la cécité spirituelle aussi. Son cœur était préparé à recevoir la parole de Jésus. Et quand Jésus lui a demandé « Crois-tu au Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie ?» L'homme qui était aveugle a répondu « Qui est-il, afin que je croie en lui ?» Les versets 35 à 38 racontent cette interaction. Par la foi, cet homme a reçu la vue spirituellement. Il a vu son péché et son besoin d'être secouru. Mais beaucoup de gens refusent d'ouvrir les yeux sur leur propre condition de cécité spirituelle. Beaucoup de gens refusent d'accepter qu'ils ont besoin de recouvrer la vue. Imaginez une machine de radiographie, mais pas une machine de radiographie comme on en trouve à l'hôpital. Cette machine spatiale sert à observer notre esprit. Imaginez qu'une radiographie de l'esprit poserait des problèmes, j'imagine, pour tout le monde. Parce que nous savons, même avant de faire la radiographie, que nous avons une maladie sérieuse et épouvantable. Nous n'avons pas envie de contempler les horreurs de notre condition spirituelle. Nous sommes couverts par nos péchés, comme par une moisissure laide et visqueuse. Dans la grâce, dans sa grâce, Dieu a permis à l'aveugle de voir sa condition et de la prendre en dégoût. Cette vue nouvelle a permis à l'homme de voir la réalité de ses péchés et de se repentir. En fait, cette nouvelle faculté de voir spirituellement a permis à l'aveugle de voir Dieu pour la première fois. Il a accepté le miracle de Jésus. Il a vraiment recouvré la vue. Et nous alors, Jésus nous donne la faculté de voir notre vraie condition spirituelle. Mais est-ce que nous l'avons reçue? Est-ce que nous nous sommes demandés aussi? Est-ce que nous nous sommes demandés aussi, qui est-il qui donne la vue, afin que je croie en lui? Est-ce que nous avons permis au Seigneur de nous montrer nos péchés, de nous humilier et de nous amener à la repentance? Est-ce que nous sommes prêts à remercier le Seigneur pour la vision spirituelle qu'il nous donne pour que nous marchions vers la lumière avec assurance? La lumière est une idée très importante dans la Bible. La première parole de Dieu dans Genèse 1 invoque la lumière. Que la lumière soit. On voit plus tard dans les évangiles que Jésus est la lumière du monde. En plus, dans sa prière pour les Éphésiens, l'apôtre Paul demande que Dieu illumine, oui, qu'il donne la lumière pour les yeux de leur cœur. C'est la lumière qui permet la vue. Mais comment s'applique ce texte à nous aujourd'hui? Regardez les versets 39 à 41. Les pharisiens demandent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la même question. Et sans la lumière du monde, sans Jésus, la réponse est oui, nous sommes aveugles. Pharisiens en bonne santé ou mendiants aveugles, tous sont dans la même condition spirituelle. Nous sommes tous aveugles spirituellement. Et c'est là notre crime. Nous sommes coupables d'être aveugles. Nous sommes coupables de la culpabilité, dans un sens. Et au verset 41, Jésus offre deux réponses à cette cécité. Ce qu'il veut dire dans la première partie du verset, c'est que l'aveugle qui reconnaît sa cécité et qui se repent n'est pas coupable. Il est pardonné. Il reçoit la vue. Mais par contre, dans la deuxième partie de ce verset, celui qui prétend voir avec clarté, lui, il demeure dans sa condition d'aveugle. Sa lumière à lui, ce sont ses œuvres prétendument bonnes et ce qu'il croit être l'obéissance à la loi. Mais en fait, il rejette la vraie lumière. Comme l'homme dans cette histoire, nous aussi nous sommes nés aveugles. Mais le problème, c'est que nous ignorons cette réalité. Le remède pour la cécité vient seulement de Dieu. Spirituellement, nous sommes aveugles. Et la seule solution à ce problème, c'est de se repentir et de croire en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Le remède ne vient pas de nous. C'est Dieu seul qui peut résoudre ce problème. Et c'est seulement la lumière de Jésus qui peut nous guider. Je vous invite à la prière. Seigneur, dans les psaumes, nous lisons que tu es notre lumière et notre salut, et que tu transformes les ténèbres en lumière. Notre Seigneur, nous te prions de faire en sorte que nous marchions dans la lumière de ton salut. Fais lever sur nous la lumière de ta face éternelle et donne-nous la capacité de te suivre tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.